des élections fédérales aux invasions digitales,
des tirs de sniper aux tirs aux pigeons,
toute l'actualité,
ou presque,
non carrément méchant. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 17ème numéro de Carrément Méchant. Nous sommes le mercredi 4 novembre 2015 avec moi toujours via les internets, Émilie.
Oui, c'est moi, bonjour, bonjour internet, bonjour Yann.
C'est juste pour te... On dirait qu'ils disaient ça pour te rassurer, tout ça. C'est moi, c'est bon.
Je suis là,
c'est bon, voilà. Un petit peu de backstory, on enregistre cet épisode à 9h30 du matin, ce qui est difficile, vous en conviendrez, mais
oui.
L'information
mais
n'attend pas.
Nous sommes forts et beaux et intelligents, donc tout va bien se passer.
Exactement, nous attendons notre prix Pulitzer pour tant d'efforts, évidemment au service de l'information politique et futile. Et on va commencer tout de suite par un petit
voyage. On va commencer en douceur, en fait.
Oui, par un petit voyage en Syrie.
Mais oui, ce pays merveilleux, cette destination touristique.
De rêve.
De rêve, sur le réveil, pour être honnête. Hein.
Uh-huh.
Et, soit dit en passant, c'est pas de ça dont je vais vous parler, mais il y a eu récemment des clips de l'État syrien pour encourager le tourisme en Syrie, en fait, où on voit des enfants qui jouent joyeusement dans une piscine en Syrie. Enfin bref, si vous ne savez pas où passer vos vacances de Noël pour les passer au chaud et avec un peu d'adrénaline, vous pouvez aller à Damas.
T'es sûr que c'était pas un clip de vacances de Bachar el-Assad?
Non, alors pas encore, on n'a pas eu la chance de voir ça.
Avec lui en maillot de bain, avec son air très placide et très monsieur tout le monde.
Alors moi j'ai pas envie, écoute il est tôt, on va pas imaginer Bachar el-Assad en maillot de bain à 9h38. je refuse de faire ça.
Et donc, que se passe-t-il là-bas?
Excusez-moi, et du coup, je vais vous raconter pourquoi peut-être que Bachar el-Assad n'a pas très envie de se mettre en maillot de bain et de passer du bon temps ces temps, puisque c'est le bordel dans son pays. Bon, rien de nouveau, vous me direz. Mais enfin, la situation semblait ne pas pouvoir empirer, avec des centaines de milliers de victimes depuis le début du conflit, des millions de réfugiés, des extrémistes religieux sanguinaires, et un régime qui bombarde sa population. On vous avait parlé le mois passé, en plus, que Vladimir Poutine avait décidé d'ajouter une couche au chaos ambiant, en bombardant non pas Assad, parce que c'est son pote, non pas l'État islamique, parce que je sais pas pourquoi, en fait, mais les rebelles anti-Assad. Et puis le problème, en fait, c'est que Moscou n'a pas fait ça discrètement. Donc la campagne aérienne menée par Vladimir Poutine a été largement vendue au public, et par là j'entends à tout le public, c'est-à-dire au monde entier, sous l'étiquette de « les Américains sont des lâches, donc on intervient ». C'est pas très bon pour Obama tout ça, qui espérait un peu de se retirer du clusterfuck ambiant tout discrètement. C'est comme si Vladimir Poutine avait tourné le projecteur sur lui alors qu'il essayait de sortir par la petite porte. Donc, Washington a décidé de revenir sur une promesse plutôt importante. Et ils ont annoncé cette semaine que l'Amérique allait engager des troupes sur le sol syrien. Donc, après avoir clairement énoncé en 2013 que ce qui se passerait en Syrie resterait « no boots on the ground ». Donc, voilà, puisque les promesses sont faites pour être brisées, Obama a annoncé cette semaine qu'il allait engager des troupes d'opération spéciale en Syrie. Qu'est-ce que c'est qu'une troupe d'opération spéciale? On ne sait pas trop. Ce qu'on sait par contre, c'est que cette annonce n'est que la dernière en date d'une série d'échecs monumentaux des USA qui ont tenté de faire tourner la situation en Syrie à leur avantage. Alors, je sais que c'est pas facile de suivre ce qu'il se passe et ce qui s'est passé dans ce maudit pays, mais accrochez-vous, on va y arriver. Je vais vous faire un petit background. Tu suis Yann?
Tout à
Tu
fait.
Es réveillé?
Oui.
Alors, au commencement était le printemps arabe. Et les soulèvements populaires ont commencé à faire tomber vilain dictateur après vilain dictateur. C'était en 2011. Pouf, 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 ça semblait facile. Et puis en Syrie, on attendait simplement que Bachar el-Assad tombe à son tour, comme si un président était une espèce de bibelot en déséquilibre sur une commode. Ça s'est un peu envenimé, puisque Assad était un bibelot qui malheureusement commandait une armée avec des bombardiers et a décidé de balancer des bombes sur sa population afin de, je sais pas, de se faire aimer plus, j'imagine.
Ah, de mater la répression, simplement.
Oui, voilà. Alors ça c'est ce qu'on dit, hein. Et donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que le consensus international est comme ça. Assad est un affreux personnage qui a en plus été jusqu'à gazer ses propres civils, brisant ainsi ses engagements internationaux. Et donc, les États-Unis, le gendarme du monde, doivent faire quelque chose. Mais quoi ? On ne sait pas trop. Donc la CIA, qui est le...
Qui a toujours plein d'idées.
Voilà, qui a toujours plein d'idées, et qui sont les services secrets américains, c'est une distinction importante, a mis au point un programme d'entraînement et d'armement des rebelles laïcs anti-Assad, qui a commencé en septembre 2013, donc un mois après les attaques chimiques. Je souligne rebelles laïcs anti-Assad, c'est-à-dire pas les extrémistes religieux et pas les pro-Assad.
D'accord.
Ce qui paraît plus ou moins rationnel à ce moment-là. Il y a donc un slogan pour cette campagne, et ce slogan, c'est de l'anglais, vous allez comprendre, « Assad must go ».
Ah oui.
Je traduis quand même, parce que je suis sympa, « Assad doit partir ». Seulement, le programme n'a pas beaucoup de succès, vu que des extrémistes religieux de tous bords ont déjà infiltré la plupart des groupes rebelles, et ont quand même vachement plus de succès à mener des attaques. Et en plus de tout ça, c'est la Russie qui a réussi à convaincre Assad de donner ses armes chimiques à la communauté internationale pour les détruire, pour que donc ces dernières les détruisent, alors que Washington, plus ou moins en fait, distribuait des fusils et des pick-up à 2-3 mecs dans le désert. C'était déjà pas très bien parti à ce moment-là. Tu suis toujours, Yann ?
Toujours.
Très bien. Entre-temps, arrive qui arrive ? L'État islamique.
Ah bah, mes meilleurs amis !
Voilà, on les avait presque oubliés. Mais ils sont arrivés plutôt récemment dans le conflit syrien et ils se sont mis tout de suite au rythme, en fait, à la partition syrienne, en se mettant à crucifier des gens, à imposer un régime de terreur.
Ah oui.
Et surtout, au grand surtout, à décapiter des otages américains sur vidéo. Donc, tout à coup, pour Washington, on passe d'un méchant à un autre. Maintenant, ISIS est la personne qu'il faut descendre. Seulement, à ce moment-là, Obama avait déjà dit « no boots on the ground », c'est-à-dire « pas de troupes sur le sol ». Alors, on lance une petite campagne de frappe aérienne, comme on sait si bien les faire après la Libye, qui a été un tellement grand succès. Et on lance un second programme d'entraînement des rebelles, cette fois-ci géré par le Pentagone. Rappelez-vous, le dernier était géré par la CIA. Le Pentagone, c'est quoi, Yann ?
En gros, c'est l'Organisation de la Défense américaine.
Voilà, c'est le département de la défense, et en gros, c'est le département qui commande l'armée.
Voilà.
Et donc, contrairement au programme de la CIA, qui lui visait à descendre Bachar el-Assad, le programme du Pentagone est destiné uniquement à combattre l'État islamique. Et ce, en entraînant jusqu'à 5000 combattants par année, et ceci incluant 5000 combattants en 2015. On rediscute du slogan, on passe de « Assad must go » à « Assad must go at some point ». Dire Assad doit partir, mais c'est un peu égal quand. Alors, au début du mois d'octobre, une commission d'évaluation du programme du Pentagone révèle des chiffres pour le moins troublants. Je viens de vous dire qu'il fallait former environ 5000 troupes avant la fin de l'année.
Ouais.
Et on découvre qu'en fait, seule une petite centaine de ces soldats sont en formation. Et que sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se battre, on en compte combien ?
Je ne sais pas.
4 ou 5.
Ah, mais c'est moins qu'un contingent suisse au Kosovo, ça.
C'est moins qu'un contingent suisse au Kosovo, c'est
et
moins
pourtant,
que
c'était
le nombre
peu.
Des ministres du Conseil fédéral, c'est moins que plein de choses.
C'est moins que deux doigts sur ma main.
C'est moins que de toi sur ta main, enfin, si tu en as 4, enfin, sur tes mains, enfin, bref, vous comprenez. Pour un programme qui était censé entraîner des milliers de combattants et être une force crédible à l'État, pour combattre l'État islamique, c'est un échec énorme. Et le tout pour un coût évalué à pas moins de 500 millions de dollars. Ça fait beaucoup de dollars. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on découvre ce fiasco ? Hop, on arrête le programme. Parce que... Voilà, ça marche pas, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.
Oui.
Et les Américains expliquent qu'en fait, une des raisons pour lesquelles ce programme était un échec, c'est qu'il était très difficile de trouver des soldats qui étaient intéressés uniquement à combattre l'État islamique. Parce que les Américains arrivent en Syrie, puis ils disent « Oui, écoutez, nous, on aimerait bien buter des gens aussi, est-ce que vous voulez buter ceux-là avec nous ?» Et les Syriens, ils disent « Oui, écoutez, on est un peu occupé pour l'instant. Il y a notre président qui nous balance des bombes à la gueule et puis qui torture tous les opposants au régime. Mmh. Washington est là, non, mais vous savez, nous, ça ne nous intéresse pas trop. Mais tout ce qui est, nous, on est plutôt contre les radicaux islamiques comme ça. Enfin, c'est un peu compliqué d'arriver dans une guerre civile et puis de tout à coup expliquer aux gens contre qui ils doivent se battre.
Ouais.
Donc, le programme est avorté avec force honte. Mmh. Ça, c'était le background. J'espère que vous êtes toujours là.
Oui, oui, oui.
Mais donc, vous avez compris que jusque-là, Washington n'a pas eu beaucoup de succès pour lutter contre l'État islamique ou contre Bachar el-Assad. Mmh. Alors maintenant, Washington a une nouvelle idée. Revenir sur sa promesse et envoyer des troupes d'opération spéciale sur le sol, c'est-à-dire des soldats de l'armée américaine. Alors, il ne peut pas en envoyer trop parce que sinon, il va se faire buter par le Congrès. Mais en fait, il veut envoyer des troupes d'opération spéciale, on ne sait toujours pas très bien ce que c'est, qui vont entraîner des milices syriennes dans la lutte contre l'État islamique. C'est-à-dire qu'ils ont été dénichés des tribus, en fait, au nord-est de la Syrie, qui, pour l'instant, n'avaient pas demandé grand-chose à personne, qui étaient un peu loin pour se faire bombarder par Assad, et qui sont plus ou moins menacés par l'État islamique en termes de territoire. Alors, on va créer une nouvelle force, une nouvelle armée, qu'on appellera la coalition arabe syrienne. Une semaine après, on lui trouve un nouveau nom. Les forces syriennes démocratiques.
Oh.
Voilà, alors ça est constitué de Kurdes et d'alliés. Je n'ai pas exactement le temps de vous parler des Kurdes. Mais en gros, ce sont ceux qui sont le plus intéressés à combattre l'État islamique et un peu moins Bachar el-Assad. Alors, la création de cette nouvelle force, les forces syriennes démocratiques ou FSD, a été annoncée donc par leur porte-parole, leur nouveau porte-parole, qui a également expliqué quelle serait la direction en fait, de cette armée, qui allait la diriger. Ce serait un conseil de 6 personnes, dont seulement une personne a été sélectionnée pour l'instant. Et c'est, devinez, le porte-parole lui-même. Donc, autant vous dire que la dernière annonce américaine par rapport à leur engagement en Syrie ne paraît pas porter beaucoup plus de promesses que les dernières. Alors, on imagine que peut-être qu'ils essayent de créer nouvelle milice sur nouvelle milice et de changer de nom, et que dans tout ce chenil ambiant, on allait enfin les oublier et qu'ils pourraient enfin rentrer à la maison incognito. Alors, je sais que c'était beaucoup d'informations pour pas grand-chose, mais au final, c'est exactement ce qui s'est passé. Washington essaye de montrer qu'il est là et qu'il fait quelque chose, même si, au fond, sur le terrain, rien ne change. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec ou sans les Américains, le chaos en Syrie est fait pour durer. Voilà, Yann, j'espère que je t'ai pas perdu,
Non.
Mes chers auditeurs non plus, et puis on va tout de suite, parler de choses un peu plus joyeuses.
Exactement, on va passer d'un sujet amusant à un autre.
Oui, alors nous, on aime beaucoup faire ça à Carrément Méchant, et puis on va voyager un peu à l'Est avec toi, Yann.
Exactement.
Tu vas nous emmener en Chine.
Exactement, parce que...
Un autre régime sympathique.
Tu le sais, Emily, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, plusieurs dizaines de sociétés collectent des informations sur notre comportement. Ce qu'on achète est monitoré par notre banque, les gens à qui on parle sur Internet sont relevés par Facebook, Twitter, Google et d'autres. Notre empreinte digitale est enregistrée sur nos téléphones, tournant sous Android ou iOS. Et on l'accepte parce que les conséquences de ces relevés ne nous paraissent pas si tangibles, finalement. Même là, on discute sur Skype. Microsoft relève probablement des informations de ça, puisque Microsoft a racheté Skype il y a maintenant un moment. Mais pour nous, voilà, ça n'a pas une conséquence énorme. On va pas finir en prison ou avec, comment dire, des soucis dans la vie suivant
on
notre usage de Skype.
On ne sait pas encore.
On va pas me traiter de feignant pour avoir, par exemple, discuté 40 minutes avec toi sur Skype et que ça n'ait pas produit quelque chose qui ait une valeur financière importante. Mais ce n'est pas partout pareil sur Terre. Nous sommes des francophones, nous venons donc en vaste majorité de Suisse, de France, de Belgique, du Luxembourg, du Canada, et ne l'oublions pas, d'une pété de pays d'Afrique et d'Amérique latine. En Chine, c'est une autre histoire. Se développe une utilisation de ces données privées qui fait absolument froid dans le dos, et qui rappelle les pires craintes d'auteurs de science-fiction. On peut se rappeler évidemment au bon souvenir de 1984. Avec ce que le gouvernement chinois appelle le Social Credit System, un système de cotation financière, non pas des sociétés, mais des individus. Rien que ça. Rien que ce principe est terrifiant. Ce système est directement relié à la carte d'identité de chaque citoyen chinois et sera obligatoire pour chacun des 1,3 milliard d'individus que compte le pays à partir de 2020. Donc, dès 2020, chaque citoyen sera coté individuellement. et automatiquement. Et si vous pensez que ça peut pas être pire, accrochez-vous fermement à votre chaise et à vos libertés individuelles. Votre Citizen Score augmente ou baisse en fonction de ce que vous achetez, de ce que vous
c'est un peu comme dans Farmville.
De ce que vous publiez en ligne, ou même de ce que vous lisez. Vous achetez une console de jeux vidéo, votre score baisse, vous êtes un feignant. Vous lisez un blog critique envers le gouvernement, votre score baisse, vous êtes un mauvais citoyen. Le but est, selon le gouvernement chinois, d'établir votre profil de la meilleure façon possible afin de déterminer votre possibilité de rembourser vos prêts. Sous ce prétexte grossier, la Chine quantifie l'humain selon ses critères. Et ça va encore plus loin. Même les agissements de vos amis ont un effet sur votre propre score. Si votre pote Xavier Jinping décide soudainement de commander 300 numéros de Playboy, non seulement son score va baisser, mais le vôtre aussi. Pourquoi perdre son temps à apprécier le peuple alors qu'ils peuvent tous se détester et se fliquer entre eux pour leur propre intérêt ? Hein, finalement, ça sert à quoi de se fatiguer ?
C'est un peu l'équivalent chinois du bouton dislike sur Facebook, non ?
Ah, c'est ça, effectivement. Prouve que ce système dépasse de très très loin la seule estimation bancaire, le site Computer World a révélé un petit nombre d'échelons et d'opportunités qui leur sont liés. Le score, le Citizen Score, s'établit donc entre 350 et 900 points. À 600 points, on peut souscrire à un emprunt immédiat de $800. À 650 points, on n'a plus besoin de déposer un acompte pour louer une voiture. À 700 points, vous pouvez demander un permis de travail pour Singapour. Avec un score encore plus élevé,
vous aurez un pins.
Vous aurez même le droit à un visa pour l'Europe ou encore la possibilité de déposer votre CV pour des emplois très haut placés. L'ascenseur social selon Big Brother. Alors, à ce stade, moi, j'ai une proposition pour Pékin. Actuellement, votre échelle va de 350 points à 900. Autant dire que toutes les tranches entre 350 et 0 ne sont absolument pas utilisées, et c'est dommage. On pourrait par exemple mettre des punitions corporelles à 300, la saisie du logement à 200, l'assassinat d'un proche à 100, pour bien que le citoyen récalcitrant comprenne le message, et puis à 0, quick, l'injection létale.
Oui, alors c'est vrai que... Et puis on pourrait automatiser ça en ayant des puces RFID
avec
des charges électroniques.
Juste à côté de la jugulaire et tu la bloques avec un procédé si jamais ça va pas.
Ouais, exactement. Voilà, il faut éviter les bugs de software dans...
Oh, tu sais,
tu as toujours des bonnes idées.
Et honnêtement,
tu serais un bon protagoniste de la guerre en série.
Il y a pas besoin de me remercier. Assurez-vous juste de m'allouer suffisamment de points pour quand ce système arrivera en Europe et on sera tous d'accord.
Voilà. Oui, ne t'en fais pas, Yann, je ne téléchargerai pas trop de numéros de Playboy.
voilà. Pardon, Émilie, j'ai fini de discuter directement avec la Chine, je te laisse reprendre. Et nous allons reprendre avec notre ami Bibi Netanyahou, notre grand ami, crâne blanc, celui sur qui...
C'est un joli surnom, ça.
Celui sur qui neige tout le bonheur d'Israël. Que se passe-t-il avec lui?
Alors, Bibi Netanyahou est un bon élève.
Ah.
Qui a encore, par contre, fait parler de lui un peu plus tôt dans le mois.
Uh-huh.
On le savait déjà doué en dessin depuis l'épisode de la bombe atomique aux Nations Unies, et il nous a récemment éclairé sur ses capacités en histoire.
Oh.
En effet, lors d'un discours à un congrès sioniste, alors le sionisme, vite fait, c'est une idéologie basée sur un sentiment d'identité juive tellement fort qu'il leur faut avoir un pays.
Mm-hmm.
Et donc, qui décide que c'est une bonne chose de mettre des gens hors de leur maison pour prendre leur maison pour ensuite avoir un pays.
Pour citer une célèbre chanson suisse de l'après-deuxième guerre mondiale, c'est un peu le « il y en a point comme nous » d'Israël.
Voilà, c'est ça, c'est l'hymne vaudois revisité par Israël. Et donc Bibi Netanyahou aime bien aller à des congrès sionistes de temps à autre.
Uh-huh.
Et lors du dernier, il a raconté une anecdote saisissante concernant la Seconde Guerre mondiale.
Ça fait très stand-up, là, à partir de là.
Absolument. Oui, vous savez, la Deuxième Guerre mondiale, et plus précisément la solution finale. Ce remède de grand-mère trouvé par Hitler pour gérer le problème juif. Et je veux bien sûr parler de l'extermination du peuple juif.
Bah, bien sûr.
Alors, selon Netanyahou, l'idée d'extermination ne venait en fait pas d'Hitler lui-même. Parce qu'au fond, Hitler, c'était un type plutôt sympa qui voulait à la base seulement expulser les juifs hors d'Europe.
Il voulait seulement la pureté de son peuple.
Voilà, mais de quoi Il était incompris, voilà. C'est un artiste incompris et un idéologue incompris également. Et voilà qu'un beau jour, Hitler a été boire une bière avec le grand moufti de Jérusalem, c'est-à-dire une haute autorité de l'islam, un certain Haj Amin al-Husseini.
En fait, c'était son correspondant quand il était petit ou à l'école.
Voilà, qui lui a pris un thé vert pour des raisons évidentes.
Logique.
Et donc, ce serait ce dernier, donc le grand moufti de Jérusalem, qui aurait donné l'idée à Hitler de brûler tous les juifs d'Europe au lieu de les expatrier. Pourquoi ? Selon Netanyahou, le grand moufti aurait expliqué à Hitler que expulser tous les juifs d'Europe ne suffirait pas, puisqu'à ce moment-là, les juifs allaient tous venir en Palestine, c'est-à-dire dans le jardin de M. al-Husseini.
J'allais faire une vanne là-dessus en plus. J'allais dire « Non mais attends, t'en mets plein dans mon jardin là, voilà, ça va pas Adolphe. »
Exactement, c'était un peu ce genre de choses, et donc al-Husseini aurait suggéré à Hitler qu'il suffirait de brûler tous les juifs afin de résoudre le problème une fois pour toutes. Donc, ce qui est certain, c'est que cette rencontre s'est passée, a bien eu lieu, et que le grand moufti de Jérusalem était au moins tout aussi mal disposé envers le peuple juif que Hitler lui-même, ainsi que tout l'establishment nazi.
Excuse-moi, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu l'expression l'establishment nazi. Le who's who Goebbels dit, hein.
Je suis pour redynamiser les concepts de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, seulement voilà. Donc si, il est absolument indéniable que al-Husseini était un personnage complètement antisémite et qui n'avait aucun scrupule, en fait, à désirer l'extermination du peuple juif, ainsi qu'il a exprimé à plusieurs reprises être ravi de l'évolution des affaires en Allemagne, après la déclaration de Benjamin Netanyahou, des historiens de tous les bords, et ce qui est plutôt rare, israéliens et palestiniens ensemble, donc les historiens, je précise, ont dénoncé la remarque de Bibi comme étant tout simplement fausse. Hitler a pris la décision d'éliminer les juifs tout seul comme un grand, alors peut-être avec 2-3 potes, mais ces potes, ils étaient plutôt autrichiens ou allemands. Peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi ce serait un problème au fond si ce monsieur al-Husseini avait en effet souffler la solution du problème comme si c'était un problème de maths à Adolphe. Alors, outre le fait que ce serait de la tricherie, accuser le grand moufti... Accuser le grand moufti d'être à l'origine de la solution finale permet à Netanyahou de faire deux choses assez incroyables pour un juif d'Israël. Premièrement, et tenez-vous bien, ça lui permet d'absoudre le régime nazi d'une partie de sa responsabilité dans l'Holocauste. Et ça, vous vous doutez que ça n'a pas été très bien accepté en Israël.
Non, en Israël, non, c'est pas voilà. Le bon public, disons.
Non, c'est pas le bon public du tout. Deuxièmement, ça lui permet d'accuser son ennemi de toujours, la Palestine, d'être en fait les vrais responsables de l'Holocauste. Ouais. Alors, les journalistes interloqués qui ont contacté le bureau de M. Netanyahou pour des explications sur son commentaire se sont vus rediriger vers le porte-parole de Bibi, qui a ensuite redirigé les journalistes vers un livre contenant la source de cette anecdote. Mm-hmm. C'est un livre sur l'histoire d'Israël qui date de 1993 et qui est intitulé « Une place entre les nations ». Son auteur se nomme Benjamin Netanyahou.
Bien sûr.
Alors je ne mens pas, c'est vrai que c'est facile de se citer soi-même, enfin c'est facile d'inventer des sources quand on est à l'origine de la source elle-même. Mm-hmm. Et donc devant des sources aussi solides, nous avons même dû être témoins d'un acte politique pour le moins, disons, douloureux, puisque même le porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel a tenu à officiellement répéter et clarifier que oui, l'Allemagne, et l'Allemagne seule, était bien responsable de l'Holocauste, au cas où les gens l'avaient oublié.
C'est nous.
Oui, alors c'est-à-dire que quand on est des dizaines d'années après, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu embarrassant de devoir rappeler aux gens, oui, écoutez, oui, c'était bien mon grand-père, maintenant, laissez-moi tranquille. Devant tant de critiques et de critiques unanimes, donc je répète que des Israéliens et des Palestiniens se sont élevés d'une seule voix pour dénoncer la fausseté des propos de Netanyahou. Mmh. Donc Bibi a été forcé de les clarifier et il a plus tard affirmé que jamais, au grand jamais, qu'il n'avait voulu douter la responsabilité de Hitler. Il voulait seulement attirer l'attention du monde sur le fait que, quand même, le grand moufti avait joué un rôle d'encouragement dans les choix des nazis. Alors, de rôle d'encouragement à inspiration principale, selon Bibi, il n'y a qu'un pas. Selon les historiens, c'est un peu plus complexe. Mais enfin, on peut quand même remercier Bibi Netanyahou de nous rappeler que c'est quand on ne se rappelle pas de l'histoire qu'elle tend à se répéter.
Et puis c'est beau d'avoir une imagination active chez les enfants, c'est quelque chose d'assez, d'assez
intéressant. Oui, ce n'est pas un enfant, c'est le premier ministre d'Israël.
Ah merde ! Pardon ! Voilà. Excusez-moi.
Oui. Non, je sais qu'il a un style de dessin un peu enfantin, mais on n'est pas tous des artistes, voilà.
Effectivement. Bien, eh ben, écoute, on va passer maintenant à notre quart d'heure d'actualité suisse.
Absolument.
Qui a été d'ailleurs majoritairement marqué par les élections fédérales, puisque la Suisse a décidé de voter pour son parlement, qui à son tour va bientôt en décembre voter pour son gouvernement, le parlement.
Et oui, s'est réjoui. Qu'est-ce que c'est excitant la politique suisse.
Mais toutefois, avant de décortiquer les résultats des élections fédérales 2015, plus tard dans cette partie de Suisse de Carrément Méchant, j'aimerais vous parler de la campagne d'un candidat au Conseil des États, donc à la Chambre haute, c'est-à-dire l'équivalent d'un Sénat, du Parlement suisse. Plus particulièrement de la campagne de Pierre Kohler, membre de la section jurassienne du PDC, Parti démocrate chrétien, donc situé au centre avec des valeurs chrétiennes. Le bonhomme a un nom typiquement suisse, Pierre Kohler, vous l'avez remarqué, et je peux vous assurer qu'il a pile la tête de l'ancien directeur d'école qui a décidé de se lancer en politique pour, pense-t-il, servir la communauté et son ego. En fait, c'est même mieux que ça. Pierrot est président des conseils d'administration de Delphis SA, Gaolé SA, Infralog SA, Phoenix Watch Co. SA, Jurafoot SA, Sexygène, je vous assure, SA, Promotion Bellet SA. Il est aussi membre du conseil d'administration du Holding SA, donc qui est une sorte de jeu de mots entre Holding et son nom de famille.
Ah.
Il est président.
Ah, il a du mort en fait.
Il est président de Champy Gourmet SA. Et aussi.
Moi j'aime bien ce type. Il a bon goût dans le choix du nom de ses entreprises.
Attends, je suis au milieu de ma liste. Oui, il est encore président des comités de Via Jura et de Pays
Vous
Romand.
Vous avez un peu Viagra, hein, Via Jura.
Il y a pire. Et aussi de Pays Romand, Pays Gourmand. Il est vice-président des comités écologie libérale, de l'Agence des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Sans oublier qu'il est membre des comités de Voix Transjurane et de l'Association romande contre la drogue, ou encore d'Équiterre. Voilà.
Comment est-ce qu'il peut siéger à tous ces comités en même temps? C'est un peu un Père Noël des temps modernes, comme ça. Il peut être à plein d'endroits à la fois.
Bah, il fait que ça, j'imagine. Il a été maire aussi, mais bon.
Il est membre de comités à plein temps.
Exactement. Pierre Kohler est un homme tellement plein de ressources qu'il a même participé au jury de Miss Paysanne Suisse 2010.
Ah voilà.
D'ailleurs.
Ah mais ça c'est toujours bien, c'est un CV politique.
En parenthèse, une fois que tu reviens au pays, je te conseille ce concours évidemment.
C'est un compliment.
Oui. Et a organisé.
Merci.
En Suisse, et ça te concerne moins, les demi-finales de Miss Chine Cosmos. Miss Chine Cosmos, ça s'invente pas.
Miss Chine Cosmos.
Ouais, je passe les catapultes vers le ciel ensuite, je sais pas comment ça marche. Bref, il ne lésine pas.
Je vais chercher ça sur Google.
Il ne lésine pas sur les moyens pour arriver à ses fins. Tant et si bien d'ailleurs qu'au moment de mener sa campagne aux États, il y a quelques semaines, il s'est fendu d'une publicité politique à son endroit un peu spéciale. En effet, il a commandité un spot télévision. Ce qui, en Suisse, est rigoureusement interdit et illégal. Les politiciens et les partis politiques ne peuvent pas faire de publicité politique à la télévision et à la radio. Ils n'ont droit qu'au tract, à l'affichage public, au courrier et à la publicité dans la presse. Mais Colo, c'est un malin. Il n'a pas balancé sa publicité télé en Suisse. Non. En vrai, sa publicité a été diffusée sur RTK1, une chaîne de la télévision publique du Kosovo. À côté de lui, on retrouve le message suivant, écrit en albanais. Pierre Kohler, grand ami des Albanais, grand contributeur à l'intégration des Albanais en Suisse, candidat au Conseil des États. Petite trace de français tout de même, avec, au-dessus de son nom, une inscription dans la langue de Molière qui indique « PDC, un Jura fort, ensemble ».
Je suis sûre que l'argument du Jura fort au Kosovo, ça a dû passer très bien quand même.
La raison
il y a, d'ailleurs un support très fort au mouvement séparatiste jurassien basé au Kosovo.
Et tu te poses la question justement, pourquoi est-ce qu'il a fait ça comme ça? Bah, la raison d'une publicité aussi bizarrement ciblée est double. Tout d'abord, il faut savoir que, comme nous informe RTS Info, Pierre Koller est proche du gouvernement du Kosovo, à tel point qu'il a été l'invité personnel du Premier ministre du pays. Ça pose son nom. Deuxièmement...
Et puis il faut aussi savoir qu'il y a quand même un grand nombre d'émigrés kosovars et de descendants d'émigrés kosovars qui sont actuellement citoyens suisses et que du coup ça fait un certain sens de s'adresser à cette audience.
Et c'est même mieux que ça, puisque c'est une particularité cantonale qu'il faut prendre en compte. Le Jura autorise les étrangers présents sur le territoire depuis un certain temps à participer à ces fameuses élections. C'est donc un levier de voix que de motiver une catégorie de la population regardant depuis la Suisse cette chaîne publique kosovare. L'Ofcom, la branche du gouvernement suisse chargée de réguler les télécommunications, tranchera d'ici peu sur la légalité de cette diffusion de publicité. En effet, comme la publicité politique est interdite à la télévision en Suisse, et que ces chaînes peuvent tout de même être reçues sur le territoire helvétique, le gouvernement veut probablement éviter de laisser passer un précédent qui ouvrirait la boîte de Pandore. Toutefois, comme le Kosovo n'a pas signé les traités internationaux concernant l'accord sur la télévision transfrontalière, ça va être compliqué. C'est donc seulement si l'Ofcom trouve une société à la fois pourvoyeuse de satellites diffusant cette chaîne et signataire de cet accord que la chaîne RTK1 sera brouillée en Suisse. Donc rassurez-vous tout de suite, le Kosovo ne risque rien et Pierre Koller non plus. Pierre Koller ne risque d'ailleurs tellement rien qu'il a perdu et décidé de se retirer de la vie politique, arrivé troisième derrière le gagnant socialiste et une candidate rivale de son propre parti, le PDC. Bref, tout ça pour ça.
Oui.
On continue maintenant avec alors.
On continue fait ensuite. Divers. On va passer à un fait divers.
Chiens écrasés, peut-être.
Voilà. Alors, j'en avais un peu marre de vous parler d'atrocités, de guerres civiles et d'autres joyeuseries, mais je vais vous parler d'un événement qui a été curieusement ignoré par les radars cette semaine. C'est la fusillade de Winterthur.
D'accord.
Est-ce que tu as entendu parler de la fusillade de Winterthur, Ian?
Peut-être, mais j'ai oublié.
ça veut dire non.
Oh, alors, pour
nos amis non helvétiques,
oui.
Winterthur est une charmante bourgade de Suisse allemande.
Oui.
Et vendredi soir, une fusillade y a eu lieu qui a fait environ 60 victimes.
Merde.
Or, personne n'en parle.
Pourquoi? Oui.
Alors, c'est peut-être lié au fait que les victimes étaient des pigeons.
Ah.
Et je ne veux pas parler d'individus un peu naïfs. Je parle bien de pigeons, de volatiles urbains, dont le seul crime, en fait, était d'envahir la gare de Winterthur. Et du coup, les CFF même, c'est-à-dire la régie fédérale responsable de nos charmants petits trains, ont décidé que trop c'était trop et qu'il fallait en finir avec ces vilains volatiles de la manière la plus armée qu'ils soient. Alors les badauds de Winterthur ont été des témoins privilégiés d'un massacre de pigeons au fusil, en pleine gare, un vendredi soir, en rentrant du boulot, ça fait toujours plaisir. Oui, avec force, effusion de plumes et de sang.
Maman, ils font quoi les policiers?
Alors, les détails sordides décrivent que certains pigeons ont même été tirés alors qu'ils dormaient, ce qui fait un peu rire puisque ça a apparemment choqué les témoins, comme si les pigeons éveillés avaient eu l'occasion de se défendre avec bravoure et roucoulement contre les agresseurs.
Ils peuvent moins tenter de se barrer, quoi. Enfin,
voilà, enfin. Et que les cadavres ont été par la suite entassé dans des sacs en plastique transparent, le détail important est transparent, histoire de faire durer le spectacle. Alors, donc, selon les CFF, c'était parce qu'il y avait trop de ces petits volatiles dans la gare de Winterthur que toutes les autres mesures avaient échoué et que les CFF avaient donc obtenu un permis pour tirer ces pigeons.
D'accord.
Donc, si on a un permis pour le faire, c'est pas grave. Enfin bon, je me demande si c'est un coup de CFF pour décourager les passagers qui se mettraient à critiquer la hausse de leur prix, parce que si oui, franchement, c'est vachement efficace.
C'est une politique assez étonnante de la part des CFF.
Voilà, je n'ai pas fini, et puis parce que en fait, je ne voulais pas vous quitter avec une image de la Suisse qui, en plus de ne pas aimer les étrangers, n'aime pas les animaux, non. Ici, on aime les animaux, enfin sauf les pigeons, parce que eux, ils méritent d'être tués dans leur sommeil en public, comme dans un mauvais remix suisse-allemand des techniques de l'État islamique. Et enfin, en Suisse, on aime les animaux. D'ailleurs, les moutons ont la cote, par exemple, en Suisse. Une pétition de 25 000 signatures a été déposée ce mois-ci par la Protection Suisse des Animaux.
Oui.
Exactement, une meilleure protection pour nos sympathiques pelotes de laine à pattes.
Oh.
Alors, pour les protéger contre quoi, vous me direz? Ce n'est pas contre les loups, contre les lynx ou contre les randonneurs malveillants. Non, non, ce n'est parce que les moutons qui passent dans les alpages suisses ne sont pas assez surveillés,
oh,
selon la Protection Suisse des Animaux. Et donc, tels des bambins un peu chahuteurs, les moutons subissent fréquemment des chutes mortelles ou sont victimes des intempéries, les pauvres. En effet, la Confédération Suisse subventionne les alpages non surveillés qui, évidemment, coûtent moins cher.
Excuse-moi.
C'est un peu comme si l'État payait vos parents pour vous installer devant la télé au lieu de prendre une babysitter alors qu'ils vont dîner avec leurs potes le vendredi soir.
Oh.
Si ça ne remonte pas la Suisse dans votre estime, on avait même voté il y a 5 ans pour introduire des avocats pour les animaux au niveau fédéral,
oui,
qui est d'ailleurs une pratique qui existe déjà au niveau cantonal, notamment à Zurich. Et enfin, le peuple suisse a quand même dit non à ça, à 70%, parce que sinon, on ne pourrait pas jouer au tir au pigeon en toute impunité.
Oh.
Et ça, c'est quand même important pour nous en Suisse.
C'est vrai qu'il aurait pu y avoir des démarches par rapport à ça pour pigeonicide, finalement.
Voilà, voilà, c'est un crime dont on ne parle pas assez.
Est-ce que on peut relier... Non, je vais pas tenter de transition hasardeuse entre le meurtre de pigeons et les résultats des fédérales.
Des oiseaux au votant pour l'UDC.
C'est... Oh, pas que, hein. J'ai l'impression que tout le monde se fait pigeonner dans
fait
ce
pigeonner.
Genre d'histoire que tu votes UDC ou autre. Pour le coup...
Et ce genre d'histoire, on parle donc des élections fédérales.
Voilà, j'aimerais avertir nos auditeurs si jamais, comment dire, les résultats des élections fédérales, des analyses qu'on peut en tirer, évidemment racontées de façon tout à fait intéressante et amusante, mais ne vous intéressent pas, barrez-vous maintenant parce qu'il n'y a plus que ça. Donc, il y a quelques jours, ce qui s'est passé, c'est que le peuple suisse s'est dit « Ah, tiens, comme tous les 4 ans, je vais élire mon Parlement. »
Voilà.
Mon Parlement qui est, je le rappelle, donc composé de 2 chambres, le Conseil national et le Conseil des États. Le Conseil national, c'est donc 200 sièges répartis au prorata de la de la taille des cantons, de la population des cantons. Le Conseil des États, c'est 46 sièges, 2 sièges par canton et demi-canton. Voilà, simplement.
Voilà.
C'est un système de double majorité qui favorise
d'un côté...
Vous pouvez
chercher sur Google demi-canton.
C'est un système de double majorité qui favorise d'un côté pour le Conseil national la majorité des gens et d'autre côté la majorité des cantons. Donc les petits cantons ont plus de poids grâce à la seconde chambre au Sénat, c'est-à-dire au Conseil des États. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a élu l'entièreté du Conseil national et une partie du Conseil des États parce que dans plein de cantons, il y a des deuxièmes tours. Donc on n'est pas encore au courant de tous les résultats, mais enfin on a déjà la plus grande assemblée, la majorité des sièges qui ont déjà été donnés grâce à l'élection au Conseil national qui est maintenant terminée. Et
grande surprise.
Alors oui, j'ai beaucoup aimé.
Les grands gagnants de ces élections.
J'aime pas Gauche Hebdo en général, mais j'ai beaucoup aimé leur manchette qui était « Surprise, la Suisse est de droite ». ce que j'ai trouvé être un résumé absolument parfait de la situation, puisque on remarque une poussée de la droite en général. La droite populiste a réussi à dépasser les 60 sièges sur 200. Donc l'UDC est à plus de 60 sièges sur 200. La droite libérale, c'est-à-dire le Parti libéral radical, a aussi gagné du terrain. Ils ont gagné 3 sièges. La nouvelle configuration, elle est assez spéciale. C'est-à-dire qu'on retrouve donc l'UDC à 65 sièges sur 200. Ils en ont gagné 11 depuis la mandature précédente. Le Parti libéral radical, donc le parti de droite libérale, a gagné 3 sièges et arrive donc à 33 sièges. Le Parti socialiste, principale force de gauche en Suisse, est à 43 sièges, on a perdu donc 3, même s'ils ont gagné 0,1% des votes à cause du système fédéral et à cause du système de proportionnel. Ça a fait qu'ils ont quand même perdu 3 sièges parce que les autres en ont beaucoup trop gagné à côté. Les Verts ont perdu 4 sièges et tombent à 11 sièges. Les Verts libéraux en ont perdu 5 et tombent à 7 sièges. Donc on remarque que les courants écologistes s'en prennent plein la gueule. On remarque aussi que les partis du centre, c'est pas très folichon pour eux, avec le PDC qui a perdu un siège, qui descend à 28. Le PBD qui descend à 7, donc on a perdu 2. PPD, c'est un parti de centre, centre bourgeois, centre droit, qui s'accoquine
de,
parfois...
De droite,
ça dépend quoi.
À la en droite fait, du centre.
À la droite du centre, c'est-à-dire que c'était la partition très modérée de l'UDC, la partition très paysanne modérée de l'UDC, notamment dans les Grisons, qui s'est ensuite réétendue dans plein d'autres cantons pour une magouille politique dont on vous a déjà parlé dans un précédent numéro de Carrément Méchant. Dans les partis amusants qui ont quand même trouvé des sièges, on a le parti évangélique qui en garde deux.
Le parti amusant.
Qui n'en a perdu aucun mais qui n'en a gagné aucun. C'est notamment les gens qui défendaient le déremboursement de l'avortement, donc des gens parfaitement sympathiques. Le MCG, c'est-à-dire le mouvement citoyen genevois, c'est-à-dire l'extrême droite genevoise, hein, pour faire très simple, garde son siège. Le POP, donc qui est un parti d'extrême gauche, a un siège par une espèce de miracle incroyable. Donc globalement, la gauche est très clairement en minorité, la droite populiste est très clairement en position de force d'un point de vue législatif, parce que 65 sièges sur 200, ils ont jamais été aussi hauts. Effectivement, après, c'est pas non plus une révolution. Et le fait que la droite libérale soit aussi en bonne forme, pour le coup, fait que voilà, la droite plus traditionnelle en général et les forces non populistes plus au global restent quand même en majorité, tiennent le manche. C'est simplement que l'UDC tient la plus grosse part du Parlement, reste que tout le reste, c'est pas eux. Et que pour beaucoup de choses, ça va être très gênant de faire passer certaines lois par le Parlement. Évidemment, ils peuvent toujours passer par le peuple, mais par le Parlement, c'est plus compliqué. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Déjà, une petite parenthèse, parce que tout le monde dit « la Suisse va sombrer », etc. N'oubliez pas que, encore une fois, le Conseil des États n'est pas encore complètement peuplé. Du côté du Conseil des États, l'image n'est pas si nette que ça pour l'UDC, et qu'actuellement, il y a plus de sièges socialistes que de sièges UDC au Conseil des États.
Et puis surtout que si on veut effectivement faire passer un projet de loi, le projet de loi doit être approuvé par les deux chambres.
Exactement.
Qui sont souvent en désaccord assez important.
Exact.
Et que du coup, ce n'est pas parce qu'il y a une majorité de droite que tout à coup, tous les projets plutôt conservateurs vont passer.
Parce que là, on est à 6 sièges socialistes, on est à 5 sièges UDC, à 8 ou 9 sièges PLR et aussi 8 ou 9 sièges PDC au Conseil des États. Sachant que la gauche est en ballottage très favorable, notamment à Genève, où il risque de gagner 2 sièges, donc un siège PS, un siège Vert. Et ça va être le cas aussi dans d'autres cantons, donc... Je veux dire, c'est pas une image si terrifiante de « mon Dieu, l'UDC prend le pouvoir », etc. Et c'est pas une image si terrifiante non plus que, je veux dire, notamment dans cette campagne-là, mais aussi dans la façon dont les choses sont en train de se jouer à l'intérieur du parti, l'UDC nous montre un visage aujourd'hui plutôt modéré. Je veux dire, on a vu...
Toi, tu te fais avoir par la propagande de l'UDC.
Dans le sens où, dans la façon...
Fais attention.
Non. Dans la façon dont les choses vont être jouées, en tout cas, dans le jeu gouvernemental et dans le jeu parlementaire, c'est un visage plutôt modéré. On nous ressort Adolf Ogi, on nous ressort les grandes figures patibulaires de l'UDC, de ces anciens conseillers fédéraux et ces députés très très finalement centrisants de droite, mais de droite pas si extrême que ça. Donc c'est un poil plus compliqué. Effectivement, ils vont continuer à faire passer un agenda anti-européen et xénophobe, notamment via le référendum, simplement. Ça, c'est très très clair. Maintenant, via le gouvernement, c'est plus compliqué, d'autant plus que même si aujourd'hui, notamment la droite de gouvernement veut faire passer un second siège UDC au gouvernement, et remplacer Evin Widmerstumpf, donc PPD, qui a démissionné il y a quelques jours.
Elle n'a pas démissionné, elle a annoncé qu'elle ne se représenterait pas.
Oui, mais de facto, c'est une démission. Quand tu connais le système suisse et quand tu sais que généralement,
oui,
si
non,
tu te représentes, tu es réélu,
que...
tu as démissionné. C'est assez clair. D'autant plus, c'est quand même un peu comme ça que ça fonctionne. Après, effectivement, le grand problème de l'UDC, c'est de se dire... On va probablement pas pouvoir présenter deux personnes de droite dure au gouvernement. On a déjà Uli Maurer qui est déjà bien droite, bien parfois bien misogyne, etc. Donc ça va être un petit peu compliqué d'en mettre un deuxième exactement de cette teneur-là parce que les autres partis doivent quand même voter pour les élections au gouvernement étant un jeu de cohésion où en gros chacun vote pour le candidat du copain en espérant que son candidat soit va être élu aussi. Donc on est dans une situation où on a très très envie d'avoir, pour plein de partis en tout cas, plein de partis ont envie que le deuxième siège UDC soit occupé par quelqu'un de beaucoup plus calme, de beaucoup plus paisible, de beaucoup moins radical, on va dire, dans ses idées et dans sa façon de faire passer les choses. C'est un truc qui va se développer dans les prochaines semaines, on vous tiendra au courant par rapport à ça, mais voilà, c'est ce à quoi on peut s'attendre pour le coup, probablement un second siège UDC au gouvernement sur les 7, donc probablement cela, mais pas nécessairement quelqu'un, on va dire, d'aussi rigoriste.
Pas nécessairement l'apocalypse.
Exactement, et pas nécessairement sombrer dans l'apocalypse. On rappelle quand même que la Suisse fonctionne avec des UDC dans son gouvernement et avec deux UDC dans son gouvernement depuis très longtemps. Comme Evelyn Widmer-Schlumpf, même si elle est PBD, précédemment elle était UDC, donc globalement ça n'aurait fait aucune différence sur ce que pourrait être un siège UDC modéré à l'intérieur du gouvernement.
Alors, ce qu'il faudrait encore éventuellement soulever, c'est que ce qui est rigolo, c'est que la Suisse a voté exactement de la même façon que tous les pays d'Europe qui sont concernés par un afflux de réfugiés, puisque finalement la crise des migrants est tout de même encore à l'actualité, et puis que peut-être que vous vous dites depuis la France ou depuis la Belgique, mais enfin je comprends. Il y a eu un afflux de réfugiés en Suisse, du coup les gens ont eu peur et ont voté en extrême droite. Alors pas que ce soit une bonne chose, mais au final il y a une dynamique qui n'est pas nouvelle. Ce qui est rigolo, c'est que par contre, c'est exactement ce qui s'est passé, sauf qu'on n'a pas eu beaucoup de réfugiés, voire pas du tout. C'est-à-dire que les peurs sont les mêmes et on s'est dit oh non, tous ces migrants, mon Dieu. Mais en fait, la Suisse regarde passer les migrants qui vont directement tous en Allemagne et ils leur passent à côté. Mais ils vont où? Non, ils arrivent, mais personne n'est arrivé en fait. Alors c'est vraiment une espèce de construction de la peur au niveau européen qui touche la Suisse, qui touche la population suisse, mais qui dans le pays n'est fondée sur presque rien. Ce qui était vraiment, vraiment assez étrange.
Ce qui est fascinant quand même, c'est qu'effectivement, la Suisse accueille très peu et laisse passer très peu pour...
Et surtout, très peu de migrants veulent venir en Suisse.
Et très peu de migrants veulent venir en Suisse pour plein d'excellentes raisons.
Par exemple, que nous faisons du tir aux pigeons les vendredis soirs dans les gares.
C'est dégoûtant. Je serais migrant, je ne viendrais pas ici.
Franchement,
Non. Pour le coup, il y a aussi un truc très important à noter, c'est que si effectivement il y a un faible nombre absolu de migrants qui passent en Suisse, autant si tu le compares par exemple au nombre de gens qui restent en France ou dans d'autres pays d'Europe, la Suisse en accueille beaucoup plus au prorata de la population. Et ça c'est assez fascinant pour le coup, parce qu'on est un si petit pays. Au prorata de la population, c'est plus. Après, je veux dire, ça fait pas de grande différence et y a tellement peu de migrants en Suisse et même dans des cantons qui seraient très très aptes à les recevoir, notamment à Genève, que pour le coup, non, voilà, c'est un très petit nombre et c'est plus basé effectivement sur une peur, sur un repli national, sur un repli sur les traditions, sur ce genre de choses et sur certains réflexes. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire à tous les analystes, à toutes les personnes, à tous les journalistes,
le seul analyste de la politique suisse, en tout cas suisse romande, monsieur Pascal Serini, qui est un monsieur qui a été interviewé par littéralement tous les médias francophones.
Oui, non, pas le pas.
C'est la seule personne qui est compétente pour parler des élections.
Bah, il disait pas.
Il est très compétent, hein, mais il y a eu littéralement une source de politologue pour parler de ces élections.
Et c'est un ancien prof, en tout cas en ce qui me concerne, donc c'est assez rigolo de le voir partout. Mais pour le coup, non, il racontait pas trop de conneries. Non, le truc très intéressant et le truc que j'ai envie de dire maintenant, et ça s'adresse surtout aux éditorialistes étrangers, c'est deux choses. Premièrement, non, la Suisse ne sombre pas dans l'extrême droite. La Suisse vote pour un parti de droite populiste comme depuis bientôt 12 ans, et même si c'est plus de sièges que d'habitude, ça va pas constituer une grande différence, parce qu'il y a toujours une majorité de sièges non UDC, donc à partir du moment où de toute façon ils sont premier parti de Suisse, qu'ils soient premier parti de Suisse avec 55 ou avec 66 sièges, c'est pas la fin du monde. Et
on dirait que t'as un peu peur de te faire traiter d'extrémiste de droite pendant ton séjour à Paris. Hein.
Bon, honnêtement, ça j'y ai droit à chaque fois. Non.
N'insultez pas Yann, ce n'est pas de sa faute.
Et le deuxième truc, enfin voilà quoi, ça change pas grand chose. Faut se calmer. Et si on le voit autant, les mecs, c'est simplement parce que nous on a un vrai système un peu plus proportionnel que le vôtre. Faut pas oublier ça. C'est-à-dire que en gros, si jamais il y aura pas de, par exemple, je prends cet exemple-là, même s'il est un peu compliqué à faire un lien, il y a pas trop de notre parti et c'est un peu les mêmes phénomènes. Mais en France avec le Front National, s'il y aura pas par exemple de gouvernement Front National en 2017, c'est simplement parce que vous avez un système qui est moins proportionnel que le nôtre. C'est aussi con que ça, hein, parce que sinon vous les auriez déjà. Il faut être clair par rapport à ça. Vu combien ils font dans les élections de mi-parcours et où ils se trouvent dans l'opinion publique, vous auriez déjà un ou deux ministres Front National au moment où on parle. Mais bon, c'est un autre sujet.
C'est un autre débat sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir dans les prochains épisodes.
Exactement, les prochains épisodes qui pourront être écoutés à partir du mois prochain sur radiokawa.com.
Voilà, et puis on comptera sur toi pour continuer à nous tenir au courant des avancées populistes en Europe, puisque c'est le sujet de ton travail de bachelor.
Mais oui, j'ai été d'ailleurs...
Tu pourras être le second Pascal Serini.
Mais non. on verra, il est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, c'était un plaisir, Émilie, de faire cette émission avec toi. Merci d'être
là. C'est toujours un plaisir de parler des choses positives qui se passent dans le monde avec toi, Yann.
@Roulet sur Twitter.
@Roulet sur Twitter, et on nous trouve ensemble @MéchantRK sur Twitter également, ainsi que Yann tout seul si vous ne voulez pas me parler @InksHT.
Exactement.
Sur Twitter toujours.
Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le Twitter handle MéchantRK et on vous répondra avec beaucoup de hargne. Voilà. On se retrouve donc le mois prochain. D'ici là, passez un bon mois de novembre. Hein, ne déprimez pas trop.
Et puis si vous avez des questions sur toutes les choses qu'on vous a racontées, on sera ravis de vous répondre.
Les commentaires.
Absolument.
Voilà. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait vraiment chaud au cœur.
Oui, c'est vrai.
Au revoir.
Bisous.
Oh. Salut. 'Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo ? Jay, Fox, Caféine, Alex le Serveur et Inks le font à chaque numéro des tauliers. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiautent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. Les tauliers, une émission Radio Kawa.
Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger ? Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné ? Vous confondez toujours Batman et Robin ?
Ah mais ouais, mais là c'est chaud là quand même, c'est chaud !
Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa.